Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Alors que l'actualité semble déjà envahie par la prochaine élection présidentielle avec un hypothétique match Macron-Zemmour, nous retrouvons avec Vivante Église notre habitude d'un commentaire éclairé et si possible d'inspiration chrétienne de l'actualité au programme de cette émission du mois d'octobre qui signe donc la rentrée du grand débat, le triste anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty et ses suites. La situation en Birmanie au bord d'atrocités de masse, selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans ce pays, et le rapport de la CIAZ, évidemment. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin. Autour du plateau, deux messieurs qui sont l'un de nos commentateurs, on va dire éclairé justement, ou presque chroniqueur, Vincent Grégoire Delory, doyen de la faculté de lettres et de sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bernard Ibal, vous êtes philosophe entre autres et président des Semaines sociales de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a une nouvelle formule, c'est que maintenant on invite donc à chaque fois pour le premier sujet, tout au long de cette année, donc à compter de ce mois d'octobre jusqu'en juin, donc une forme de challenger, en tout cas un invité extérieur, et l'invité extérieur c'est vous, Fatia Agag Boudjalat. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en REP, réseau d'éducation prioritaire, et vous êtes essayiste. Bonjour.
Bonsoir, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent donc pour inaugurer le bal. Alors vous êtes par téléphone, c'est déjà très bien. On commence par cette actualité dont les auditeurs ont certainement entendu parler, mais ici on prend un peu le parti de se dire que c'est aussi l'actualité pour ceux qui suivent un peu moins. C'est donc ce triste anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, cet autre professeur d'histoire-géographie assassiné donc à l'arme blanche, décapité. Après sa sortie du collège de Conflans-Sainte-Honorine, c'était le 16 octobre 2020. Il y a eu donc des commémorations et actes posés donc par l'État pour essayer de ne pas oublier ou signer l'importance de faire mémoire de l'assassinat de cet enseignant. Alors vous, Fatia Agag Boudjalat, vous avez été aussi pas mal invitée sur les plateaux. Pour vous, c'est un triste anniversaire. Je commencerai par ça. Expliquez-nous pourquoi.
Déjà, c'est un triste anniversaire parce que, je vais un peu nuancer ce que vous avez dit, il n'a pas fait l'objet d'un hommage dans tous les établissements. Un mail, par exemple, d'un lycée a fuité disant que la direction faisait le choix de ne rien faire et qu'elle laissait à chaque enseignant et à chaque lycéen de sa propre initiative l'occasion, l'opportunité de, dans sa tête, d'avoir une pensée pour Samuel Paty. Voilà. D'autres ont fait des surtout avec les jeunes publics, c'était un peu ridicule, le ministère a voulu y associer le premier degré. On fait des dessins un peu naïfs sur le métier de prof. Voilà. On doit, et je reprends les propos de David Dinota qui a consacré un livre terrifiant, clinique, à l'analyse des conditions qui ont conduit à la mort de Samuel Paty, on a d'abord un devoir de vérité avant d'avoir un devoir de mémoire. Et je suis toujours très étonnée qu'il n'y ait pas eu de commission parlementaire. Je suis très étonnée ce qui s'apparente pour moi à des mensonges quand on dit qu'en fait, la direction de l'établissement a soutenu Samuel Paty, ce qui ne ressort pas du tout du rapport famélique que l'inspection générale a fait. Et on a cette espèce de déni où il a fallu vite passer à autre chose et puis être dans la célébration à commémoration, mais on n'a pas ce devoir de vérité. Samuel Paty était dans une extrême solitude, alors, que ce soit face à sa direction ou face au ministère.
Alors, on va dire, on en vient directement au fait, parce que comme il s'agit de vous faire dialoguer, mais quand même de vous donner la primeur, bref, on rentre à grands pas dans le sujet. Le livre que vous citez, c'est donc « J'ai exécuté un chien de l'enfer », c'est donc un livre écrit par un écrivain français, David Dinota, qui a fait pas mal de bruit, en effet. Ce qu'il dit, c'est que nous devons à Samuel Paty la vérité. Alors, la vérité, ça serait donc ce rapport de l'inspection De l'inspection de l'éducation nationale, qui a fait en fait une relecture des événements et qui laisse entendre parmi d'autres choses que, alors je cite David Dinota, la décapitation n'a rien changé à l'attitude de l'éducation nationale face à l'enseignant. Est-ce que vous nous expliquez ce qu'il entend par là, David Dinota ?
C'est tout à fait juste. D'abord, ce rapport, il fait 24 pages. Sur ces 24 pages, il y a 4 feuilles blanches. Il y a 2 pages pour le sommaire. Et il y a 2 pages sur des propositions ridicules. Donc au final, il y a 18 pages. Et ce rapport ne cite même pas dans son titre la mort de Samuel Paty, c'est rapport sur les événements de la ville. C'est un peu comme ça qu'on a, c'est comme ça qu'on appelait la guerre d'Algérie jusqu'à récemment, les événements. Voilà. Il s'agissait de couvrir l'institution. Et ce que dit David Dinota, ce que j'ai lu, j'ai été quand même bouleversée et puis vraiment très étonnée parce que c'est d'une justesse incroyable alors qu'il est extérieur à l'éducation nationale. Regardez ce que la majorité présidentielle ou les autres politiques nous ont présenté comme réponse systémique à apporter à ce problème, la formation des profs. Quand des employés de Pôle emploi ont été assassinés, on n'a pas proposé aux employés de Pôle emploi plus de formation. Quand une épouse se fait assassiner par son conjoint, on ne propose pas aux femmes des formations pour être de meilleures épouses ou pour se défendre. Mais quand c'est les profs, on part toujours du principe que c'est eux qui ont fauté ou alors qu'ils avaient un défaut dans leur formation.
Et alors là, c'est
qui n'était pas sûr. Mais le problème, je vous le dis, c'est que là, les chefs d'établissement n'incarnent pas l'autorité et qu'ils sont dans l'achat de la paix sociale absolue avec les parents qui sont devenus tout puissants et qui sont devenus des clients qui estiment qu'ils sont rois.
Alors, il y a beaucoup de choses dans le livre de David Dinota. On va donner la parole à un des autres invités pour mettre en perspective vos propos. Ce qu'il laisse entendre, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu d'une interview, c'est que la prime a été donnée à la parole des élèves et d'une élève, en l'occurrence, celle qui est à l'origine, on va dire, du drame, et qui est primée sur la parole du professeur. Il lui a été demandé plusieurs fois par sa hiérarchie, donc, de s'excuser, de reconnaître sa maladresse, en dépit du soutien, en fait, et des témoignages des élèves qui disaient qu'il avait abordé le sujet avec la délicatesse nécessaire, et c'est ce qui fait donc qu'il n'aurait pas aussi bénéficié d'une protection policière. Comment vous réagissez, Vincent Grégoire Delory, à cet anniversaire et aux propos de Fatia Agag Boudjelat?
Alors bon, deux choses. Évidemment, le triste anniversaire, il ne s'agit pas de revenir évidemment sur le fait qui est un fait complètement inqualifiable. La question ensuite du soutien éventuel ou pas on va dire de la hiérarchie de cet enseignant, là j'avoue que je botte un peu en touche, je ne connais pas le sujet. Ce qui m'avait intéressé plus, moi, c'est finalement la question de cet enseignement en soi, cette question de la religion, des caricatures, de la place justement de ce type d'enseignement au sein de notre éducation nationale. Car en effet, ce n'est pas neutre du tout, c'est vrai que c'est difficile, c'est un sujet compliqué, un sujet délicat, on marche sur des œufs. Faut-il, oui ou non, autoriser ou du moins faire en sorte que des caricatures, car si j'ai bien compris, il avait présenté, c'est bien ça, hein, des caricatures
de Charlie Hebdo,
c'est des caricatures qui sont très dures.
Tout en proposant aux élèves, voilà, donc, qu'ils le souhaitent, voilà, a priori choqués, de sortir
quitter.
De la classe.
Ça reste quand même, pour moi, ça reste quand même quelque chose de délicat, car il s'agit pour moi de quand même, si je les ai regardées, ces caricatures, c'est quand même c'est de la pornographie. Tout simplement, quand on parle à l'école de pornographie, on ne montre pas de films pornographiques, par exemple. Simplement, on peut en parler sans nécessairement montrer. Moi, je suis mal à l'aise avec ça, car faut-il, oui ou non, dans une école, montrer des choses susceptibles de choquer? Moi, le premier, du reste, je ne regarde jamais, enfin, Charlie Hebdo, je n'apprécie pas du tout ce journal. Bon, il est là, je ne suis pas obligé de l'acheter, évidemment, mais je suis le premier à être choqué quand je vois des caricatures offensantes, outrageantes.
Donc, vous dites qu'il faut en parler, mais...
Je pense qu'en parler... Je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on peut parler, bien sûr, il faut en parler, en effet, qu'est-ce que la liberté d'expression? C'est un vrai sujet. Y a-t-il des limites à la liberté d'expression? Oui, non, si oui, pourquoi? Lesquelles? Comment? De quelle manière? Donc ce sont des vrais sujets. Est-ce qu'il faut mettre sous les yeux d'une population, enfin d'enfants, de gens jeunes, des images qui pourraient éventuellement choquer?
Alors,
moi, c'est ça qui va m'intéresser dans cette
question. Fatia Boudjelat, je vous donne la parole et puis après on va donner la parole à Bernard Ribal.
Ce que dit votre invité est absolument scandaleux. Je tiens quand même à lui faire réaliser que la fille qui est à l'origine de toute l'histoire n'avait pas assisté au cours. Donc ce ne sont pas les dessins du tout qui est en cause, monsieur, puisqu'elle n'a pas assisté au cours. Elle a menti. Donc déjà, ça invalide complètement ce que vous dites. Après, ce n'était pas de la pornographie, monsieur. Vous reprenez l'accusation du père de la jeune fille qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Ce n'était pas de la pornographie, c'était un dessin. Et comment parler de la liberté d'expression si on ne parle pas des caricatures? Surtout dans un contexte où les dessinateurs, qui sont aussi des journalistes, donc on parle aussi de liberté de la presse, avaient été assassinés. Donc je tiens à le redire, le cours de Samuel Paty n'était absolument pas en cause. Et comme vous dites, il a été, évoqué avec les élèves la liberté d'expression de manière extrêmement délicate. Vous êtes dans la même logique que celle de François Héran, que j'ai dénoncée sur LCP, disant que la liberté d'expression, quand elle touche au sacré, au religieux, s'apparente à un discours de haine. Comment voulez-vous
c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, Fatia Gaboudjala, si je peux me permettre. Il a interrogé le caractère pornographique pour des lycéens de ses dessins.
Je crois qu'il ne faut pas avoir de réaction aussi violente et aussi vive. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez toujours...
Monsieur, quand on parle de la...
Attendez, laissez-le répondre.
On ne dit pas que mes propos sont violents. Gardez le mot violent pour des actes violents,
mais,
s'il vous plaît.
Mais
laissez-le répondre.
Je pense que moi, je maintiens, malgré tout, vous pourrez toujours... Je maintiens ce que j'ai dit. Je pense que c'est une vraie question. Il y a des questions que nous devons interroger, des questions que nous devons interroger froidement. Y a-t-il, oui ou non, un intérêt à montrer de telles images à un public jeune? Ça, je pense que c'est une vraie question.
Vous ne laissez pas entendre Vincent Gordelori pour autant que Samuel Paty a, entre guillemets, mal fait. Et
non. Moi, c'est pas la question que je pose. Comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, moi, je ne pose pas du tout la question. Enfin, l'événement est absolument catastrophique, est innommable, etc., etc. Donc là, là-dessus, je ne pose aucun jugement de valeur là-dessus. Je pose la question simplement sur le plan éducatif, est-il oui ou non important, si oui, pourquoi, sinon pourquoi, de montrer de telles images à un public de jeunes. Voilà, c'est une question que je crois qu'on peut se poser sans que nécessairement ça tire les foudres.
Bernard Ibal, 20.
Je crois qu'on est en présence d'une asymétrie dans la question qui nous est posée là sur Samuel Paty. L'asymétrie est la suivante, c'est que il est scandaleux, enfin le mot est même pas assez fort, qu'un prof puisse être tué puis décapité pour des raisons d'un cours. Enfin, je ne trouve pas d'objectif, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'en ont pas trouvé non plus. C'est inadmissible. Et l'asymétrie, c'est que si on se met après à avoir une petite critique sur l'opportunité d'aller jusqu'à montrer les dessins de Charlie Hebdo. Alors, évidemment, si on met ça sur le même plan, ça ne peut pas l'être, quoi, hein. Il est 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois de plus scandaleux le meurtre que la critique qu'on peut faire du prof montrant les caricatures du Mahomet. Cependant, juridiquement, il n'y a rien à dire à Samuel Paty. Il était tout à fait en droit de le faire. Juridiquement, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un problème éthique, peut-être.
Oui, tout à fait.
Vis-à-vis d'enfants jeunes, quoi, finalement, qui ne comprennent pas forcément tout, puisqu'ils n'ont pas la culture nécessaire pour tout comprendre. Est-il nécessaire... On peut leur en parler, mais est-il nécessaire... On sait très bien que le dessin, l'image, est plus violente que la parole. Est-il nécessaire d'aller...
Que ça soit des images qui concernent l'islam, voilà. ou que...
Non, ça pourrait concerner...
C'est à nouveau le caractère légèrement, enfin, entre guillemets, pornographique des images, c'est ça?
Voilà, c'est le caractère provocant de... ce sont des images que tout le monde a vues, les adultes l'ont vu. C'est quand même extrêmement provocant. Il n'y a pas de blasphème, parce que la République ne reconnaît pas les religions, donc il n'y a pas de blasphème. Mais il y a atteinte à une communauté de personnes, hein, les croyants musulmans. Là, il y a atteinte à leur dignité, oui, leur dignité de foi. Ouais.
Alors, comme vous êtes l'invité, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Et désolé si ça bouscule. Fatia Agagboudjalat, peut-être. Eh ben, elle a raccroché, voilà. Peut-être qu'elle était fâchée. Bernard Ibal, vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on fasse une première pause musicale sur ce sujet? Imagine quand même que peut-être, c'est pas fort, peut-être vous avez-vous entendu parler ou vu des interviews de David Di Nota à propos de son enquête. Ce qu'il laisse entendre quand même sur le rapport d'inspection nationale et sur le déroulement des faits, on a l'impression que la hiérarchie a quand même pas fait son travail, en l'occurrence.
Oui, il faut dire que la hiérarchie, si on remonte jusqu'au ministère, le ministère a accentué sur, comment dirais-je, sur une voie différente. Le ministre lui-même a orienté la commémoration là, hein, vers ce qu'il appelle, lui, le wokisme. Alors, il n'y a pas que lui qui dit wokisme, enfin, c'est quand même pas un mot très courant.
Le wokisme, pour les wokisme, mieux,
c'est l'éveil, hein, si on traduit. Et c'est-à-dire qu'il voudrait éveiller le ministre et tout le monde à ce qui est l'exagération, peut-être, d'une façon d'envisager la laïcité. Tout ce qui concerne l'islamo-gauchisme, la décolonisation, où il faut casser toutes les statues des colonisateurs.
David Denotin en parle d'ailleurs.
La cancel culture, etc.
Il dit que le père utilise des arguments de l'islamo-gauchisme, justement.
Voilà. Donc, il attire le ministre. Alors, à mon avis, il a raison. Je ne donne pas raison au ministre tout le temps. Hein. Mais sur ce plan-là, je lui donne assez raison. Parce qu'il y a un dérapage islamo-gauchiste qui est quand même patent, quoi.
Voilà, donc le père...
ça n'a rien à voir avec le meurtre de Samuel Paty. Hein.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une asymétrie, il faut faire attention à ça. Il y a une chose qui est inqualifiable d'un côté.
Ouais, voilà.
Que personne, là, je pense que personne ne remet en question ça. C'est unanime pour tout le monde. Ensuite, la question, effectivement, des vertus éducatives de telles choses, je pense qu'on peut se les poser calmement. Je ne comprends pas pourquoi ça a provoqué une telle tension. Ce sont des vraies questions. Je pense que ce sont des vraies questions.
On a peut-être une démonstration de wokisme, justement. Enfin,
alors, c'est un peu. On va s'arrêter là parce que, comme elle n'est pas là pour répondre, ce serait quand même maladroit. Fatia Agag Boudjelat, qui est aussi chroniqueuse donc, dans le journal La Dépêche, qui a rappelé dans une tribune que j'ai retrouvée qu'elle, quand elle avait essayé de faire la même chose après donc, l'assassinat de Samuel Paty, jusqu'à inviter le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, et ben, il y avait aussi des enfants, des adolescents qui avaient une réaction extrêmement virulente. Et en l'occurrence, je crois que ce qui les choquait, c'était pas forcément le caractère pornographique des images. Bref, à suivre. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler de toute autre chose. On a casé un sujet international donc au milieu de deux sujets qui concernent la France. On va parler de la Birmanie. Thank you.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Vincent Grégoire Delory, doyen de la faculté de lettres et de sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse, Bernard Ibal, philosophe, président des Semaines sociales de Toulouse, était avec nous au début de l'émission. Fatia Agag Boudjalat, professeur d'histoire-géographie en réseau d'éducation prioritaire et essayiste. Voilà, figure, on va dire, engagée de la défense de la liberté d'expression et de la laïcité. Peut-être a-t-on... Enfin, c'était certainement moi qui lui avais pas bien présenté peut-être les possibilités du débat. On espère qu'on l'a perdue, non pas parce qu'elle était trop fâchée, mais parce qu'il y a eu un problème technique. Deuxième sujet, c'est donc la Birmanie. Alors, on en avait parlé l'année dernière, Bernard Ibal, entre autres avec vous. Il s'agit d'emmener donc fort loin de la France. Pour une situation politique qu'on rappelle la situation et les événements récents, et puis je vous laisserai les mettre en perspective. Le 1er février donc 2021 dernier, Aung San Suu Kyi donc et Win Myint, tous deux à la tête donc de la Birmanie, ont été arrêtés par l'armée qui a déclaré un état d'urgence. Il s'ensuit depuis un soulèvement populaire, on va dire, et une répression féroce. On pouvait trouver dans un article du Monde en date du 23 octobre dernier, donc cette phrase que j'ai citée en partie, la junte birmane masse des dizaines de milliers de troupes et d'armes lourdes au nord du pays, sont à redouter des atrocités, déclare donc Tom Andrew de l'Organisation des Nations Unies et observatoire donc de la situation des droits de l'homme en Birmanie. Alors Bernard Ibal, pouvez-vous nous faire un petit cours de rattrapage va dire la situation en Birmanie, qu'est-ce qui se passe depuis février dernier pour ceux qui n'auraient pas complètement suivi?
C'est-à-dire qu'on est en face d'événements mal connus chez nous, et y compris peut-être par moi-même, parce qu'on est très loin de tout ça. Mais je note en premier lieu que ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Si on regarde ce qui se passe en Chine et en Inde, on voit que, comme en Birmanie, les musulmans sont violemment et massivement persécutés.
Mais alors attendez, là vous êtes déjà dans le commentaire. Donc juste le point actualité, c'est donc qu'il y a eu cette prise de pouvoir de la junte, un coup d'État.
Hein, oui.
Ce qui n'est pas nouveau en Birmanie, puisqu'en fait les militaires gouvernent depuis maintenant, on va dire, oui. 10, 20, 30 ans. Et s'en est suivi donc un soulèvement populaire. Est-ce que vous pouvez éclairer ce soulèvement populaire qui est fait en fait de multiples minorités?
Oui.
À travers le pays.
Oui. C'est quand même justement très lié à ce que je viens de dire. L'armée a trouvé insuffisant les efforts de la présidente qui s'est faite limoger pour lutter contre ce qu'ils appellent, eux, l'invasion musulmane. Parce qu'elle aussi, elle était dans le camp de ceux qui ont persécuté les musulmans.
Donc c'est les fameux Rohingyas, c'est ça?
Oui, les Rohingyas. Et tous les Rohingyas ne sont pas musulmans, hein, mais enfin, l'immense majorité des Rohingyas sont musulmans. Et elle aussi, elle était dans ce camp-là. Ce qui fait d'ailleurs une contradiction bizarre dans l'Occident, c'est qu'on lui donne le prix Nobel parce qu'elle est arrêtée par une junte militaire.
Aung San Suu Kyi, donc.
Mais elle est elle-même après menacée de crimes contre l'humanité, elle-même. Par la communauté internationale.
Donc ça c'était, pardon, excusez-moi, mais je fais quand même le cours de rattrapage au fur et à mesure. Ouais. En 2017, il y avait une première persécution contre les Rohingyas,
ouais.
Plus de 800 000 exilés, et le silence d'Aung San Suu Kyi sur ce sujet.
Oui, oui. Et le silence, elle agissait sur place. Hein. Et alors maintenant, la communauté internationale qui a à nouveau condamné donc la présidente limogée se met à réclamer son retour au pouvoir. C'est-à-dire que si quelqu'un y comprend quelque chose dans la diplomatie internationale, c'est qu'il est vraiment doué, là.
Mais Bernard Ibal, ce soulèvement populaire depuis février dernier, ce n'est pas le fait que des musulmans.
Non.
C'est le fait de, on va dire, de multiples minorités contre une ethnie.
Voilà. Alors,
majoritaire.
Oui. Là, la surprise, c'est qu'il y ait des manifestations apparemment pour la démocratie. Parce qu'il y a très peu de pays d'Asie qui manifestent pour la démocratie. Hein. La démocratie n'est pas forcément désirée partout. Et là, on a l'apparence qu'il y a des manifestations en faveur des... Ce n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Hein. Ce sont quand même des manifestations pour la démocratie. Mais c'est vrai que ça regroupe en particulier les ethnies qui se sentent à juste titre persécutées par le pouvoir. Je terminerai...
Par le pouvoir qui est d'une ethnie majoritaire, c'est ça ?
Oui.
Barma, c'est ça ou...
Oui, l'armée encore plus que l'ex-présidente. Quoi, hein,
les Bamar, pardon.
Le dernier étonnement quand même qui mériterait qu'il y ait un débat là-dessus, débat ailleurs que dans les radios et les télévisions, mais au niveau des pouvoirs, c'est qu'il y a très peu de réactions internationales. Et non seulement il y a très peu de réactions internationales, alors qu'il y a des massacres, mais en plus, le monde musulman du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Europe ne dit presque rien concernant les massacres des Rohingyas, concernant les massacres en Chine des Ouïghours, je ne sais pas trop bien prononcer tout ça, et le massacre par l'Inde des musulmans du Cachemire. On ne les entend pas. Je n'entends pas les musulmans du Moyen-Orient protester contre tout ça. Je vais employer une expression vulgaire, mais il semblerait qu'à part la Birmanie, tout le monde s'en fout, quoi. Jusqu'à aller dans les contradictions que j'ai soulevées tout à l'heure.
Alors j'apporte juste un élément avant de vous donner la parole, Vincent Grégoire Delory. Donc se tient actuellement l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, qui regroupe donc ces nations-là, auxquelles le chef de la junte militaire, qui est au pouvoir depuis ce coup d'État de février dernier, n'a pas été invité. Ai-je lu dans un article, la sanction la plus importante que l'ASEAN ait jamais infligée à un État membre. Il s'en est suivi la libération de plus de 5000 prisonniers pour les quelques 8000 qui étaient derrière les barreaux et qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont largement torturés. J'ajoutais un point d'actualité, mais je vous laisse peut-être réagir. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu sur le sujet de la Birmanie, vous n'êtes pas correspondant.
Non, je n'étais pas en Birmanie ce matin, non.
Vous étiez prévenu qu'on allait en parler, en tout cas.
J'étais prévenu. Alors effectivement, je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Bernard Ribal. C'est vrai que ça nous paraît de loin comme ça un sujet extrêmement complexe, et quand on regarde l'histoire de la Birmanie, on s'aperçoit qu'effectivement un pays avec multi-ethnique, avec évidemment énormément de complexité sur ce plan-là, et avec donc une armée depuis, enfin je crois que l'indépendance c'est 47 je crois, et l'armée qui arrive au pouvoir je crois en 62, si mes souvenirs sont exacts. Donc effectivement une armée qui arrive au pouvoir et qui d'une certaine manière amène avec d'un côté la dictature, d'un autre côté une sorte de cohésion. Ça me rappelle un petit peu, je ne pourrais pas faire hurler nos auditeurs, mais ça me rappelle un petit peu la Yougoslavie. La Yougoslavie avant la chute, avec une armée importante, et l'effondrement de la Yougoslavie a fait que les tensions entre les ethnies sont revenues, on sait bien comment ça a fini. Donc effectivement, ce qui me semble terrible, vous avez parlé tout à l'heure de la présidente Aung San Suu Kyi, qui d'un côté effectivement prix Nobel de la paix, mais d'un autre côté qui a fait partie d'un processus de démocratisation au contact de militaires qui eux-mêmes avaient retravaillé la constitution de façon à garder toutefois le pouvoir, mais c'était quand même compliqué pour elle d'être à la fois une personnalité internationale qui essayait de garder le contact avec les militaires vers ce processus de démocratisation, tout en évidemment étant peut-être politiquement obligée, si on peut dire, de garder le silence sur des persécutions de minorités musulmanes, comme on le sait. Et donc, effectivement, c'est extrêmement intéressant de savoir ce qui va se passer maintenant, parce que vous avez dit, est-ce que le général, dont j'ai oublié le nom, le chef de la junte militaire, n'est pas donc convié à l'Association des pays sud-est asiatiques, tout ça c'est très très bien, mais... Que va-t-il se passer maintenant ? On sait très bien qu'il y a une armée forte, je crois que armée en particulier par la Russie. On sait que les relations entre la Russie et la Birmanie sont très anciennes, on remonte au moins au XIXe siècle. Que va-t-il se passer ? Est-ce que nous pouvons nous passer de continuer à discuter avec la junte militaire ? Que peut-on faire ? Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que là, on a l'avantage de l'ancien système avec la présidente était justement d'avoir un peu des deux, transition démocratique tout en gardant le contact. Faut-il couper le contact avec l'actuel gouvernement putschiste de la Birmanie ? Je pense que politiquement, ça risque d'être un peu compliqué.
Bernard Ribal, il y a une question qui circule dans l'actualité, enfin Bernard Ebal ou Vincent Grégoire Delory, hein, c'est quid de la reconnaissance par la France du nouveau gouvernement d'union nationale qui a été adoubé par la population. On a l'impression que c'est une manière pour la France de s'engager. Est-ce que c'est une lecture trop journalistique et européenne de l'actualité que d'imaginer que la France va se lancer sur cette voie ou que ça servirait à quelque chose ?
Bien, moi, je suis en admiration devant les diplomates français s'ils arrivent à dégager là-dedans une tendance vraie, quoi. Parce que on a bien vu, tantôt on donne le prix Nobel, tantôt on veut poursuivre pour crimes de guerre. La communauté internationale, la France y compris, ne réagit pas, si ce n'est par des déclarations que personne ne lit, même pas la presse. Finalement, c'est sans intérêt, quoi. Hein, pour qu'il y ait de l'intérêt à une position française, il faudrait qu'on nous dise, que la France dise qu'est-ce qu'elle souhaite. Or là, il est difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut vraiment souhaiter, quoi.
On a des intérêts, en tout cas, au travers de Total et de la grande exploitation de gaz naturel.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Donc là, on a des intérêts énormes. Là.
Ah,
c'est un gisement, je crois qu'il y a pour 30 ans, je crois, d'exploitation.
Oui, oui.
Ouais. On a au moins cet intérêt économique.
Mais j'entre dans les contradictions, parce que comme vous l'avez dit, c'est la Russie qui arme la puissante armée.
Ils se sont rapprochés.
Puissante armée, à l'échelle de la Birmanie, quoi. Et en même temps, l'association dont vous avez parlé, des pays du sud-est asiatique, est une émanation des États-Unis. C'est l'OTAN du sud-est asiatique. Hein. Donc tout ça ajoute à la confusion, quoi. Les Russes, les Américains, ça fait beaucoup de monde, quoi. Hein,
Parmi tous les éléments d'actualité aussi, il y a les questions de mesures de rétorsion et donc de blocage économique, je ne retrouve plus le terme exact, qui sont maniées parfois aussi avec précaution, parce que ça précipite dans la misère. Je lisais aussi dans un article un certain nombre de personnes, et des femmes, 100 000 personnes, dit-on déjà, dans la prostitution. Et puis je trouvais cet article du Temps sur les pierres précieuses birmanes. De nombreux geôliers suisses, dit ce journal genevois, continuent pourtant d'utiliser le rubis, qui est donc exploité là-bas et qui financerait en grande partie la junte birmane qui aurait créé une espèce de... qui se serait presque autonomisée par un empire économique autour des pierres précieuses, du pétrole et du gaz.
Oui, c'est ça, c'est ce qui avait été reproché d'ailleurs il y a quelques mois à Total, hein, à l'entreprise Total. Vous savez, on avait fait remarquer, je crois que c'était sorti dans Le Monde, qu'il y avait donc des collusions assez nettes entre la junte birmane, les militaires donc, et les produits d'exploitation de ce gisement de gaz. Alors je crois que l'entreprise elle-même a fait marche arrière, a rétropédalé, a fait un certain nombre d'annonces. Je ne sais pas si ce sont que des annonces ou si c'est la réalité, mais effectivement, je pense que les enjeux économiques sont très très forts là.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on va parler, même si on a fait déjà deux émissions sur ce sujet, dont une cette semaine, mais vous teniez à parler du rapport donc de la SIAZ, et on comprend pourquoi. C'est tout de suite après cette pause. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin. Avec nous, Vincent Grégoire Delory, doyen de la faculté de lettres et de sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse, et Bernard Ribal, philosophe, président des Semaines sociales de Toulouse, était avec nous au début de l'émission. Fatia Agag Boudjelat, professeur d'histoire géographie en réseau d'éducation prioritaire essayiste, et on va dire très engagé sur le thème de la liberté d'expression et de la laïcité, et qui réagissait donc à l'actualité du terrible anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Alors, troisième sujet, Bernard Ribal, c'est vous qui l'avez suggéré. C'est donc le rapport de la SIAS, cette commission donc indépendante sur les crimes, je ne retrouve plus exactement la signification de l'acronyme.
Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l'Église. Voilà, Dieu sait si pourtant je l'ai lu. On a dit de multiples choses à l'antenne. Vous, quelle réflexion vous est venue?
Moi, c'est la réflexion qui m'est venue, ça va sans doute vous plaire, qui est un professeur de lettres éminent, c'est la pièce de théâtre qui a été un grand succès à l'époque, en 1951, de Monterland, La ville dont le prince est un enfant, d'Henri de Monterland. Cette pièce dit tout ce qu'on a constaté avec cette commission et avant cette commission, à savoir les ambiguïtés qu'il y a sur le plan spirituel, voire sur le plan physique. Mais attention, la pièce de théâtre de Monterland, elle est très sobre, hein, c'est pas, elle a rien de pornographique, hein, qui montre que on peut avoir assez facilement une emprise sur de jeunes adolescents à partir d'une démarche qui se croit spirituelle, et avec des mots, des expressions comme directeur de conscience, il faudrait abandonner ça, quoi, hein. Conseiller spirituel, ça m'irait très bien, mais directeur de conscience. On voit bien que les viols qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu par la force physique, ce qui est généralement 99% des viols, mais par
l'autorité morale.
Par un envoûtement, quoi, par une sorte d'envoûtement moral.
On pourrait imaginer aussi par l'effet de surprise, si je peux me permettre. C'est...
Oui, effet de surprise.
Quand on a 10 ou 13 ans...
Oui, mais ça ne se fait pas en 10 secondes, ça se fait petit à petit, quoi. Hein. Là, je crois qu'effectivement, on peut compter sur le synode qui arrive à point nommé, mais je crois que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs. Mais le synode qui a la volonté de créer une église synodale, justement, une église dans laquelle les baptisés, mais c'est déjà dans Vatican II, ça, dans Lumen Gentium, enfin, c'est pas une nouveauté, hein, que les baptisés prennent toute leur place, qui est très très importante, hein, qui peut être très très importante au sein de l'église, pour essayer de limiter ce pouvoir d'envoûtement clérical, et peut-être aussi, et je terminerai par là ma petite intervention, en disant qu'il faudrait prévenir les enfants et les adolescents au sein même de l'Église, hein, dans les catéchismes, chez les scouts, enfin que sais-je, les prévenir des risques. Les parents le font avec leurs enfants. Les enseignants, laïcs ou privés, le font vis-à-vis de leurs élèves. Ça ne se fait pas dans l'Église parce qu'on pensait que sans doute on était... indemne de tout ça, je crois qu'il faut, de façon répétitive, prévenir les enfants et les jeunes qu'il pourrait se passer quelque chose.
Après, ça se faisait pas, ça se faisait nulle part dans la société française à un moment. Donc,
Les parents l'ont fait depuis longtemps, quand même. Hein. Les parents le font depuis longtemps. Moi, mes parents l'ont fait, je l'ai fait à mes enfants, mais je crois que ça se faisait déjà avant. Hein,
Vincent Grégoire Delory, qu'est-ce que ça vous inspire alors que les évêques de France sont réunis la semaine prochaine du 3 au 8 novembre à Lourdes et qu'évidemment ils vont y consacrer beaucoup de temps, ils ont même rajouté je crois une ou deux journées pour parler de ce sujet et des suites puisqu'il y a des préconisations dans ce rapport.
Moi je pense qu'il y a plusieurs temporalités qui s'offrent à nous hein, désormais depuis la publication de ce rapport, certainement que nos auditeurs et les lecteurs de La Croix auront peut-être lu avec beaucoup de profil les 12 pages de la semaine dernière qui ont été publiées, donc une synthèse de ce rapport. Je pense qu'il y a d'un côté, la première chose, c'est Bon, après cette sidération, c'est la première chose, c'est la responsabilité de l'Église. C'est comment cette responsabilité peut-elle se montrer? Donc là, il y a une première chose qu'il faudra regarder, cette responsabilité.
La responsabilité
de l'Église, la responsabilité vis-à-vis des victimes.
C'est une question qui est posée par la Commission, en tout cas.
Voilà, donc ça, c'est une première temporalité qui, à mon avis, est la toute première chose qui va être devant nos yeux. Mais ensuite, il y aura effectivement une deuxième temporalité, c'est quid de l'avenir de l'Église, hein, que dit l'Église d'elle-même sur ses fonctions, sur sa hiérarchie, etc. Ça, il faut être un petit peu plus de temps pour prendre du temps pour bien réfléchir. On parlait de synodalité tout à l'heure, mais effectivement, pour bien réfléchir ce qu'il convient de développer, que ce soit au niveau de la réforme du code de droit canonique, la place des laïcs. En tant que laïc engagé, effectivement, je suis avocat ecclésiastique, donc effectivement, j'ai eu à vivre un certain nombre de choses au sein de l'officialité, jusqu'à y compris au niveau du pénal. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses à faire, des choses qui sont peut-être à voir ensemble, à travailler ensemble. Il y a ces synodes qui vont être passionnants parce que finalement, on part d'un événement gravissime, inqualifiable. L'Église va se positionner, doit se positionner sur la façon dont on va pouvoir faire pour justement rendre cette responsabilité. Et ensuite, eh bien, quelle réforme? Parce qu'il ne faut pas tout confondre. On parle souvent, on entend dire, oui, peut-être qu'il faudrait l'accès des hommes mariés au sacerdoce. Pourquoi pas? Personnellement, moi,
c'est
je suis...
C'est aussi une des préconisations.
C'est une préconisation. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout opposé à ça. Simplement, je voudrais quand même faire remarquer qu'il ne faudrait pas faire en sorte que l'accès des hommes mariés au sacerdoce presbytéral, enfin à l'ordination presbytérale, soit une sorte de punition ou une sorte en fait de modification de nos habitudes ecclésiales contre une sorte de clergé qu'il faudrait oublier, alors que quand même l'immense majorité, il faut quand même le dire à ce micro, l'ensemble majorité des prêtres de nos diocèses sont parfaitement indemnes de toute critique. Donc je crois qu'il faut faire attention. Il y a certes des positions à avoir, des événements fort qu'il fera faire en tant que responsable pour se signifier cette responsabilité, mais aussi faire attention quand même à ne pas provoquer nécessairement réforme sur réforme. Est-ce que nous avons, par exemple, est-ce que la question qui pour moi se pose, oui ou non, sur le plan pastoral, avons-nous maintenant et demain besoin de prêtres issus des rangs des hommes mariés? Est-ce que cela a un intérêt, si oui, lequel? Et ça, il faut en parler. Effectivement,
quid du droit canon? Parce que vous dites que vous êtes avocat ecclésiastique, j'arrive pas à retrouver la préconisation.
La préconisation, c'est
définir au sein du droit canonique l'ensemble des infractions sexuelles commises sur un mineur ou une personne vulnérable, parce que, afin d'accroître la lisibilité de ce droit, de faire ressortir l'échelle de la gravité des manquements, d'harmoniser l'interprétation des normes de référence. Quel était le problème, en fait, aujourd'hui?
En fait, le problème du droit canonique était un problème jusqu'à présent. Vous savez que toutes les procédures canoniques sont secrètes. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de vous parler de quoi que ce soit qui se passe à l'officialité. Bon, c'est la première chose. Deuxième chose, la question qui était posée, qui est toujours posée par le droit canonique, c'est surtout concentré autour du clergé. C'est-à-dire, voilà, si nous avons un prêtre qui commet ce type d'exaction, eh bien, c'est lui qui va être le centre, qui était le centre, en fait, de l'intérêt, si je puis dire, et non pas les victimes. Donc, effectivement, là, il y a des choses.
C'est-à-dire
qu'en fait, par exemple, il n'y a pas de. On ne faisait pas, par exemple, on ne met pas face à face des victimes et puis des prêtres, par exemple. On ne va pas chercher les victimes, on n'allait pas leur demander de témoigner, on leur demandait pas ce genre de choses. C'était essentiellement, on se posait la question de savoir comment le prêtre lui-même, qui était déjà jugé par les lois de la République, parce qu'on ne peut pas agir à l'officialité tant qu'il n'y a pas un jugement des lois républicaines, donc ce sont des personnes qui avaient déjà reçu, par exemple, une peine, ce sont pas des gens qui sont en prison, des gens qui sont, et qui ensuite, l'officialité va venir pour se poser la question de savoir si la personne peut être, par exemple, est-ce qu'on va le dispenser des obligations liées au sacerdoce. Hein, donc la personne, comme on disait jadis, avec, on avait une très mauvaise phrase qu'on disait, réduit à l'état laïque, comme si un laïc était réduit par rapport à un clerc. Vous voyez, rien que ce vocabulaire, on disait, il a été réduit à l'état laïque.
Enfin, les éléments de langage.
Les éléments de langage sont très importants. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de le prêtre qui était beaucoup plus large, d'une certaine manière, qui est ontologique, avait une sorte de d'épaisseur conceptuelle plus grande, le laïc moins. Donc là, je pense qu'effectivement, le code est en train de changer. Le pape, récemment, le code a été bougé, hein, sur ce plan-là. On a introduit dans la partie des délits et des peines.
Alors, la possibilité d'accéder à certains dossiers, si j'ai bien compris.
Alors, c'est, enfin, c'est,
il y a le pape, non c'est...
Il peut, de toute façon, effectivement, le secret, la question du secret doit être réfléchie aussi, hein, c'est-à-dire jusqu'où, que ce soit le secret de la confession, le secret de l'instruction, etc. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Véronique Magron, qui est présidente des religieuses de France, a fait un article dans Le Monde pour essayer de lever au maximum le secret qui est... Il n'y a pas que le secret de la confession. Hein. Tous les secrets dont vous venez de parler, ce n'était pas le secret de la confession. Le secret de l'officialité, par exemple. Parce que pour elle, c'est par là que l'Église pêche, en quelque sorte. Quoi, hein.
Moi, je pense que, par exemple, pour les affaires de pénales liées aux prêtres, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de laïcs. Jusqu'à présent, seul l'avocat peut être un laïc pour des questions de défense. Quelqu'un qui souhaite se défendre a le choix de son avocat, donc ça peut être un laïc ou pas. Mais sinon, l'ensemble du tribunal est constitué de clercs, des prêtres ou des diacres. Donc effectivement, ça, je pense, sont des choses qui vont certainement changer, de faire en sorte que justement ce type de choses ne soit pas jugé uniquement entre prêtres, mais que de plus en plus des laïcs formés à cela, hein, parce que c'est pas quand même aussi évident que ça, puissent eux-mêmes devenir des juges. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui vont certainement être réfléchies au sein des officialités. On va voir dans la procédure si ce genre de choses va être admis au sein de l'Église catholique.
Le mot de la fin, peut-être, Bernard Ribal. Est-ce que vous êtes confiant sur la capacité des évêques de France à se saisir pleinement de la gravité de la situation ? Je le dis parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu votre sensibilité ecclésiale ou qui ont l'habitude de vous écouter...
Oui, je crois, oui. Moi, j'ai confiance. Hein. J'ai confiance dans la très grande majorité des... Je ne les connais pas tous, hein, mais quand même, j'en connais quelques-uns. Et la très grande majorité des évêques sont tout à fait capables de s'engager dans cette conversion de l'Église. C'est une véritable Absolument. Conversion. Ce n'est pas une conversion de leur personne à eux, mais une conversion de l'Église pour aller dans le sens qu'indiquait notre ami. Si, je crois que j'ai confiance. En même temps, il faut qu'on arrête nous-mêmes de dire est-ce qu'on a confiance dans nos évêques ? Il faudrait d'abord qu'on ait confiance en nous-mêmes, quoi. Parce que sinon, on recommence la même bêtise, quoi. Alors, on donne tout le pouvoir au clérical, et le baptisé est très content d'être le soumis, alors que son devoir, c'est non pas de prendre pouvoir, mais de prendre autorité au sein de la structure ecclésiale.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu fidèlement à ce premier rendez-vous de rentrée pour l'émission Le Grand Débat. Fatia Agathe Boudjalat, qui était au début de cette émission. J'ai oublié de citer un de ses essais, celui qui a connu un grand succès, Le Grand Détournement. C'était paru aux éditions du Cerf en 2017. Elle avait été finaliste pour l'obtention du livre politique, livre plaidoyer universaliste. Elle renvoie dos à dos indigéniste et identitaire. Et donc cette femme, peut-être aurais-je juste le dire, critique les accommodements politiques et judiciaires avec les sphères religieuses qu'elle qualifie de grands détournements communautaristes et intégristes. Voilà, et un peu désolé que ça se soit soldé comme ça avec elle. Merci beaucoup. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.